Toutes les lectures aujourd'hui sont une invitation à la joie des noces, la joie d'un grand festin. Alors dans le contexte dans lequel nous écoutons ces paroles, nous nous disons, bon, le contexte, les circonstances nous invitent peut-être davantage à la tristesse. C'est un peu fort du bouchon. Et oui, parce que Isaïe invite à un repas, un festin de viande grasse, à déguster des vins capiteux, des vins décantés. On se demande si Isaïe, si Jésus vivait bien dans notre monde. Alors c'est le cas, parce que ce chapitre 25 d'Isaïe, ce chapitre 23 de saint Matthieu ont été exprimé dans des moments très, très compliqués pour la vie du peuple d'Israël, très compliqués pour la vie des disciples, pour la vie de Jésus. Jésus monte à Jérusalem. Isaïe écrit dans une période de construction, de déconstruction. Alors comment font-ils pour inviter à la joie alors que tout porte à la tristesse ? Et à l'angoisse. Autant d'Isaïe, mais autant aussi de Jésus, et on peut le voir encore aujourd'hui quand on va en Terre Sainte, il y a beaucoup de lieux qui sont appelés tels, tel Megiddo, tel Lachish, tel Aviv, tel. Qu'est-ce que c'est qu'un tel en Terre Sainte que Jésus a vu, qu'Isaïe a vu? Un tel, c'est une colline faite de ruines et de reconstructions. Quand on va à Tel Megiddo, près de Nazareth, qui a donné le mot Armageddon dans l'Apocalypse, on peut le voir. On monte sur cette colline, mais à Lachish aussi et ailleurs aussi. On monte là-dessus. Ça a l'air d'être une pyramide. Et on découvre, en traversant les couches, parce que c'est facile de traverser ces couches civilisationnelles détruites, dans la mesure où il y a une source en bas, au fond. C'est pour cela qu'à chaque destruction de ville, qui remonte quelquefois à 2000 ans, même à 8000 ans avant Jésus-Christ, quand on est à Tel Jéricho, les villes étaient détruites par les guerres et on ne les reconstruisait pas à côté. Pourquoi ? Parce qu'il y avait une source au milieu de cette ville. Donc, pour survivre et pour reconstruire, on creusait jusqu'à la source, on gardait la source, mais on reconstruisait au-dessus des ruines. Aujourd'hui, quand on fait le chemin de croix à Jérusalem, on a l'impression d'être plus ou moins sur le parcours de Jésus, oui, mais pas au niveau du parcours de Jésus. À cause des destructions de Jérusalem depuis 2000 ans, on a 7 mètres de dénivelé entre le niveau où passait Jésus et le niveau où passent les pèlerins, parce qu'il y a eu ces destructions. On passe à Tel Megiddo, on voit 18 civilisations détruites l'une après l'autre et on traverse pour arriver à la source. Les couches civilisationnelles, c'est facile de déterminer leur période, que ce soit avec le carbone 14 ou avec d'autres méthodes, ou avec simplement par la méthode d'identifier les poteries d'époque qui ont été détruites. Isaïe écrit cet appel à la joie, Jésus prononce cette invitation aux noces sur ce type de paysage. Des destructions, des reconstructions, des destructions. Donc ils étaient au cœur de l'histoire comme nous. Et il y avait de quoi sans doute s'angoisser, de quoi se rattrister, pas de doute. Alors comment est-ce qu'Isaïe fait pour annoncer, pour inviter à ce repas de noces, de viande grasse et de vin capiteux ? Le Seigneur préparera ce repas. Il enlèvera, il fera disparaître le voile de deuil qui enveloppe tous les peuples. Il fera disparaître la mort pour toujours. Il essuiera les larmes sur tous les visages. Mais il fait, c'est du futur. C'est du futur. Un peu utopique, Isaïe. Utopiste. Et Isaïe répond, regardez bien. Les phrases qui suivent. En ce jour-là, on dira, voici notre Dieu, en lui nous espérions et il nous a sauvés. Donc il passe à un passé. Nous avions raison en ce temps-là de destruction d'espérer. Il nous a sauvés. Il y avait déjà dans notre passé des brèches de l'espérance qui ont jailli, un peu comme dans cette aile où malgré tout, on a la brèche de l'eau, la source. Un peu comme aujourd'hui où, dans un contexte très angoissant, nous nous retrouvons autour d'une montagne de vins capiteux, le festin eucharistique, et ce n'est pas une brèche, une source d'eau qui fait brèche à travers toutes les couches civilisationnelles détruites. Sur cette montagne, c'est le vin qui fait brèche. Or, bien sûr, pour des motifs souvent hygiéniques et sans doute économiques, l'Église qui a grandi s'est limitée à distribuer le pain eucharistique, le corps du Christ, et le jeudi saint, et à d'autres occasions où on est un peu moins nombreux, elle distribue aussi le vin eucharistique, le vin de l'espérance, le sang du Christ. Mais c'est bien lui, c'est lui qui est source de l'espérance, et il est déjà là. Et la brèche est déjà ouverte. Et ceux qui boivent du vin, comme le curé, ils s'en enivrent. Il y a une sorte d'ivresse de l'espérance au cœur des détresses. Et Jésus sait de quoi il parle, puisqu'il est en train de monter à Jérusalem. Il sait ce qu'il attend. Il sait qu'il va y passer. Il sait qu'il va passer à la moulinette. Il le sait. La mort l'attend à Jérusalem, il monte à Jérusalem et il ne cesse de le dire aux disciples. Pourtant, il, au nom du roi, du royaume, il invite les disciples à aller à toutes les rues pour inviter aux noces, pour inviter au festin, pour inviter à la joie, dès maintenant. Alors certains n'y croient pas, donc ils ne viennent pas. Certains sont trop occupés, ils se disent un peu utopiste, Jésus. Mais d'autres, les prostituées, les publicains, qui s'ennuient un petit peu au coin des rues, ils acceptent l'invitation et ils viennent au festin dès maintenant, et ils goûtent au vin dès maintenant, et ils s'enivrent dès maintenant. Cette invitation à la joie, c'est pour maintenant au cœur des détresses. Et alors, quel est le sort, quel est l'appel, la vocation des disciples qui suivent Jésus dans sa montée à Jérusalem, c'est, ils le comprennent, d'inviter à la joie. Les disciples de Jésus aujourd'hui, que nous sommes, ressourcés par l'Eucharistie, ressourcés par le sens que le Christ nous donne, nous sommes appelés aujourd'hui au cœur de ces circonstances très douloureuses et difficiles, d'inviter à l'ivresse de la joie, de l'espérance, parce qu'il est là. Il est déjà là. Et quand Isaïe dit, mais il nous devance, il prépare déjà un repas, etc., on se dit, oh, c'est beau, il rêve. C'est beau d'avoir des rêves, d'avoir des songes. Mais Jésus l'a mis en acte, cela. Vous vous rappelez, au moment où les disciples étaient désespérés parce qu'il était mort, et ils étaient rentrés à la maison pour reprendre leur boulot à la pêche, à Nazareth, en Galilée, eh bien un matin, alors qu'ils pêchaient, qu'ils avaient pêché toute la nuit et qu'ils étaient désespérés aussi parce qu'ils ne prenaient pas de poisson, il était sur le rivage, il les appelle « mes enfants, jetez les filets de l'autre côté, 153 poissons ». Ils arrivent au bord du rivage, Jean se jette à l'eau, qu'est-ce qu'il découvre? Sur le rocher que l'on peut voir encore aujourd'hui au lac de Tibériade, il découvre que Jésus s'est fait cuisinier, que Jésus était en train de rôtir du poisson qu'il avait trouvé lui-même. Il leur propose de jeter les filets, mais lui, il a déjà du poisson, il est déjà en train de le rôtir et il les invite à ce repas. Déjà aujourd'hui, l'espérance est en train de se faire cuisiner par Jésus et il nous invite au repas de l'espérance. Alors restons des témoins de l'espérance et essayons d'inviter, nous comme chrétiens, comme disciples, d'inviter même dans ces temps difficiles à goûter aux brèches d'espérance déjà présentes.